Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Sini.
18h40, on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec la bande réunie. Cyprien Sini, Céline Landreau et Laurent Tessier. L'info autrement jusqu'à 19h. Menu Cyprien.
Ce soir, on défait la FIFA. Dans le monde, comme grande puissance, il y a les États-Unis, la Chine et la Fédération internationale de football. Vous allez découvrir comment la FIFA dirige la planète. Au menu également, le métro irrespirable, ses produits rétrogradés par Nutri-Score pour cause de pénurie et le retour des dinosaures. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti!
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
La FIFA, une multinationale, sa devise pour le jeu, pour le monde.
Oui, un peu pour l'argent aussi. Hein, puisque dans ce RTL Soir, on vous a beaucoup parlé de l'affaire Platini. Avec l'équipe d'On défait le monde, on a choisi de s'intéresser à la force de frappe de la FIFA, de comprendre pourquoi une simple organisation de foot pouvait avoir le pouvoir d'une grande puissance mondiale.
Comment une association à but non lucratif peut-elle amasser, brasser autant d'argent et pourquoi fait-elle si souvent polémique?
Pour vous faire pénétrer dans les coulisses de cette organisation tentaculaire, on a appelé le journaliste Éric Champel, ancienne plume de l'équipe et de France Football, co-auteur d'une grande enquête intitulée « FIFA Gate ». Comment le Qatar a fait exploser le système Blatter. C'est aux éditions Michel Lafon. Et pour bien comprendre de quoi on parle, revenons d'abord aux fondamentaux. La FIFA, c'est quoi?
C'est une association à but non lucratif qui fonctionne comme une association de pêcheurs à la ligne, mais qui est en réalité la World Company du football et qui a 2 milliards de dollars de réserves, si j'en crois le dernier bilan financier de la FIFA. Donc c'est quelque chose d'énorme.
Alors là, il faut m'expliquer comment une association à but non lucratif peut avoir un trésor de guerre de 2 milliards de dollars.
Parce que c'est une énorme organisation qui rassemble aujourd'hui 211 associations. À titre d'exemple, il n'y a que 197 pays membres de l'ONU. Voilà, c'est plus que l'ONU. Et surtout, entre la création de la FIFA en 1904 et aujourd'hui, le foot a pas mal changé.
C'est lié à l'explosion du football business. Je vais vous donner un exemple. La première Coupe du Monde en 1930, elle a lieu en Uruguay. Il y avait 13 participants. Mais la Coupe du Monde de 2026, il y aura 48 équipes. Les pays se battent aujourd'hui pour organiser la Coupe du Monde. Et il y a eu, disons au milieu des années 90, l'explosion des droits télé, des droits commerciaux. La FIFA négocie tous les droits marketing, tous les droits télé. Elle est en charge de la billetterie, de l'hospitalité, c'est-à-dire la accueil des VIP, etc. Ça rapporte énormément d'argent. La FIFA joue un rôle majeur dans le monde. La FIFA a ce pouvoir de permettre à un pays, à un moment donné, de prendre la lumière, ce qui est quand même extraordinaire.
Et alors pourquoi cette FIFA se retrouve régulièrement au cœur de scandales?
Parce qu'en réalité, dans son organisation, elle n'était pas faite pour supporter une telle croissance.
Le problème de la FIFA, c'est qu'à un moment donné, ça a été le choc des mondes, c'est-à-dire que ça a été effectivement une espèce d'association, d'organisation patronale qui s'est trouvée en mesure de générer, de gérer des milliards et des milliards. Mais elle n'était absolument pas structurée pour ça. Il n'y avait aucun contrôle de gestion, il n'y avait aucune transparence, aucun système qui permette d'avoir un véritable contrôle des dépenses et de savoir où allait l'argent. La FIFA a souvent été dirigée sous le règne des petits arrangements entre amis, mais c'est un système qui a perduré et qui s'est construit au fil des ans pour donner les résultats qu'on connaît aujourd'hui.
Et on rappelle que le travail de la FIFA, c'est aussi de promouvoir le foot partout dans le monde, hein, avec les sous qui restent, et puis que c'est aussi la FIFA qui décide des règles du football.
Et puis qui les change aussi, parfois, et en dépit du bon sens.
RTL, sous les radars.
Allez, on défait maintenant l'info passée sous les radars.
Oui, vous allez bien regarder votre paquet de céréales favoris. Il se pourrait bien que sa note Nutri-Score ait changé sans que vous vous en soyez aperçu. Et pour une raison assez inattendue, Laurent.
Oui, des recettes ont changé. On vous a parlé dans l'émission de la pénurie d'huile de tournesol à cause de la guerre en Ukraine. Un ingrédient très utilisé, par exemple, dans vos gâteaux. Et pour la remplacer, certains industriels se sont tournés vers l'huile de coco ou de palme. Alors, conséquence directe sur le Nutri-Score et les petites lettres de A à E, du vert au rouge sur les produits. Elsa Abdoun est journaliste au magazine Que Choisir.
Ça fait baisser le Nutri-Score d'un certain nombre de produits. Ça, c'est dû au fait que l'huile de coco et l'huile de palme sont des huiles beaucoup plus riches en acides gras saturés que l'huile de tournesol.
Des produits qui passent donc pour certains de la lettre C au D, du D au E, donc les voyants sont au rouge. Et on parle à l'heure actuelle d'une quarantaine, voire d'une cinquantaine de produits concernés. L'UFC Que Choisir a dressé la liste en comparant les nouvelles recettes avec les anciennes.
Ça va être notamment des tiramisu. Il y a beaucoup de tiramisu du rayon frais qui sont concernés. Ça va être des crackers, des céréales du petit déjeuner. Voilà, il y a un ensemble éparpillé de produits de tous les rayons.
Des profiteroles, des cookies aussi, problème. Bah, dans les rayons de certains supermarchés, pour une grande majorité des produits, l'étiquetage n'est toujours pas modifié. Ah. Fabricants et ouais, distributeurs ne se pressent pas pour le signaler. Et certains indiquent juste un changement d'huile, mais ne modifient pas le Nutri-Score.
L'info passée sous les radars. Signé Laurent Tessier, comme tous les soirs. Petite pause, on continue de défaire le monde ensuite dans RTL Soir. Avec une toute première info pour Briodiné, on va parler de dinosaures parce que c'est jour de sortie au ciné du dernier volet de la saga Jurassic Park. A tout de suite. World, pardon. C'est pareil.
Julien Cellier, Cyprien Cini ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48 minutes, on défait toujours le monde dans RTL Soir et voici une première info pour briller au dîner.
Mercredi aujourd'hui, c'est sortie ciné de.
J'adore cette musique.
Et tout le monde, formidable. John Williams, un compositeur extraordinaire. Bref, le dernier volet de la saga Jurassic Park, les dinosaures géants qui font peur. Et briller avec les dinosaures, c'est un succès assuré au dîner grâce à vous, Laurent.
Ou pas. Bon, là, vous allez être surpris. Ah. C'est qu'autant de dinosaures, il y avait déjà les crocodiles, les moustiques, les caméléons, les tortues, les lézards, les serpents. Tout ce beau monde était là. Alors, c'était évidemment des espèces différentes, leurs ancêtres, si vous préférez, qui ont ensuite évolué. Et certaines ont réussi à survivre à l'extinction grâce à leur capacité à ne pas se nourrir pendant un long moment.
Ah. Donc, ça veut dire que espèces de serpents. Les crocodiles...
le papy serpent a croisé un T-Rex, quoi.
Et donc, tout ça, ce sont des dinosaures, en fait, aussi. En quelque
pas
sorte.
En quelque sorte, oui, si vous voulez.
En quelque
vous,
sorte. Ouais, c'est un raccourci. Vous avez remarqué que je suis pas, que pas le roi de la biologie, quoi.
Julien Cellier, Cyprien Cini ont défait le monde.
Allez, comme chaque soir, c'est l'heure du verdict. Céline Landreau choisit soit le winner, soit le loser du jour.
Il a une tête de grand gagnant, puisqu'on veut nous inciter à prendre les transports en commun, et c'est pourtant. Un grand perdant. Le métro, c'est trop pour nos poumons.
Oui, parce qu'on a appris aujourd'hui avec le rapport de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, que...
lorsque vous descendez en gare, prendre votre train, la concentration en particules finies est 3 fois plus élevée qu'à l'air libre en surface.
Un bon bol d'air donc sur les quais des métros des grandes villes françaises. Peu d'oxyde d'azote issu de la pollution extérieure, mais beaucoup de particules fines. Un problème que l'on ne découvre pas vraiment. Tenez, à l'automne, on parlait de quoi ?
La pollution de l'air dans le RERA jusqu'à 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur selon l'association Respire.
Ah, et donc ça fait quelques mois que ça dure donc.
C'est plus.
Ah bon ? Ah oui, déjà en 2007.
Vos trajets dans le métro et RER, loin d'être des parcours de santé. L'air que vous respirez y est particulièrement pollué.
D'accord, donc ça fait 15 ans qu'on le sait alors.
C'est plus.
Ah bon, encore ? Ah oui, en 2000 aussi, on en parlait.
La qualité de l'air dans le métro parisien n'est pas très satisfaisante. Les taux de particules émises par les systèmes de freinage des trains sont supérieurs à ceux produits par la circulation automobile.
Avec, depuis des années, des témoignages d'usagers assez clairs.
Ça va vous paraître bizarre, mais plus j'ai de changements, plus j'en profite.
Alors non, ça c'était une pub pour la RATP, Damien. Non, les vrais usagers disaient plutôt ça.
Une fois, je suis partie du boulot, je me suis lavé les mains avant de partir. Je suis rentrée chez moi, je me suis relavé les mains et l'eau était noire. J'ai dit, donc c'est bien ce qui me semblait. C'est dégueulasse, quoi.
Qu'est-ce que ça doit donner à la fin de l'année dans nos petits nez?
L'instrument de mesure du conducteur de métro, par exemple, c'est son nez. Hein. Donc lui, quand il se mouche, ben, c'est plutôt noir.
Ragoûtant tout ça. Pourtant, du côté de la RATP, on était plutôt serein. En 2003, Alain Kerr, directeur département environnement et sécurité, l'assurait.
La toxicité, si elle existait, ça fait longtemps qu'on s'en serait aperçu, parce que depuis 102 ans qu'on exploite en émettant autrefois beaucoup plus de poussière qu'aujourd'hui, on en aurait quand même eu des conséquences tangibles sur la santé de nos agents.
Ouais. Alors aujourd'hui, l'ANSES ne tire pas de conclusion sur les effets de ces particules sur les usagers qui y sont exposés sur des courtes périodes, mais suggère bien la possibilité quand même d'effets cardio-respiratoires. Du côté de la RATP, le discours a quand même bien évolué en 20 ans. La RATP qui teste de nouveaux systèmes de frein aujourd'hui pour tenter justement de réduire ces émissions de particules fines.
Pour voyager en toute sérénité.
Et on souhaite un très bon trajet à tous ceux qui nous écoutent avec leur baladeur sur les quais du métro.
Leur
Walkman.
C'est hyper récent,
comme,
ça.
Ouais, c'est un petit côté suranné comme ça. Allez, petite pause. Dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner avec encore une fois les dinosaures.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Cini. L'info pour briller dans On défait le monde.
bonne soirée. Vous écoutez RTL Soir pendant encore quelques minutes puisqu'il est 18h54. On défait le monde sur cette antenne et on vous propose une nouvelle info pour briller au dîner avec les dinosaures.
Oui, parce qu'on aime jouer à se faire peur, donc on recommence. John Williams, quel compositeur. Oui, un petit chat. Pour fêter la sortie du nouveau Jurassic Park, deux infos pour briller avec les dinos ce soir. Et vous, Céline, vous vous êtes posé une question assez improbable. C'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi les T-Rex avaient si petits bras?
Bah ouais, c'est bizarre quand même, ces dinosaures hyper puissants.
Elle se pose quand même des drôles de questions. Ah ouais.
Mais je suis pas la seule, vous allez voir. Qui pouvait mesurer jusqu'à 13 mètres de haut avec un crâne d'1m50, des bras d'1m seulement. C'est un peu comme si un homme d'1m80 avait des bras de 12 cm. Ouais.
C'est ridicule.
Un peu ridicule, voilà. Et bien cette année, un paléontologue, Kevin Padiam, pense avoir trouvé l'explication. En fait, c'est parce que les tyrannosaures chassaient souvent en meute et mordaient donc en même temps dans leur proie de manière assez frénétique. Les grands bras risquaient donc d'être broyés.
Oh là là,
les tyrannosaures
génial.
Qui avaient des grands bras sont sans doute morts amputés. Ouais. Et c'est la loi de l'évolution. Et bien ce sont les petits bras qui ont survécu et qui ont pris le dessus.
Ah, c'est comme la tache blanche sur les chats noirs.
Pardon.
Alors, je vois pas trop ça.
Non, c'est pas le rapport. Bien le rapport,
bah, mais... les chats noirs.
Ouais.
Ils portaient malheur. Donc ouais. Pendant des années, on les a trucidés.
Ouais.
Donc petit à petit, ils ont développé des taches blanches.
Ah, ah. Bah, on savait pas non plus, on brille aussi.
Je me donne le point briller, ce soir.
Je veux jouer maintenant.
C'est pas possible.
Marche ou rêve. Allez, tous les soirs à 7h06, juste avant 19h. De jolies idées, vos jolies idées, vos jolis projets.
L'inflation est partout, tout augmente. Sauf peut-être dans l'épicerie que vous nous avez dégoté, Laurent.
Oui, parce que chez Hugo, à Biernay-les-Villages en Mayenne, on arrondit les prix pour chasser les pièces d'un ou deux centimes qui traînent, vous savez, dans notre portefeuille. Et croyez-moi, les clients sont gagnants. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette chasse à la petite monnaie ?
Pour simplifier la vie de mes clients surtout. Moi je suis dans un petit village, donc j'ai beaucoup de personnes âgées qui viennent chez moi. La plupart me payent toujours en espèces, parce que les cartes, tout ça, ils en ont horreur. Ils cherchaient leurs petites pièces à chaque fois dans leur porte-monnaie, c'était un peu galère. Donc je me suis dit pourquoi pas simplifier la vie des gens, vu que je suis un commerce de proximité, je me dois d'être proche de la population et donc je me suis dit ça peut que les aider quoi.
Mais là où c'est intéressant, c'est que vous arrondissez les prix à la hausse ou à la baisse ?
Alors, j'arrondis les prix pas forcément à la hausse, je les ai arrondis aussi à la baisse parce que j'en ai profité pour renégocier tous mes tarifs avec mes fournisseurs. J'ai même changé certains fournisseurs qui me paraissaient un peu chers par rapport à avant. Donc ça m'a permis de baisser pas mal de tarifs. Au final, je me suis rendu compte que sur la totalité des prix que j'ai modifiés, j'avais 1,2% de baisse de tarifs.
Donc c'est gagnant-gagnant pour les clients, non ?
Voilà, c'est exactement ça. Les clients sont heureux, ils m'ont dit, ben ouais, c'est bien, en fin de compte, il y a quelques prix qui ont baissé. J'ai tout fait pour justement ne pas entrer dans cette machine où on dit tout le temps, on arrondit les prix et forcément, ça va augmenter les prix. Et ben chez moi, c'est pas vrai.
Mais ça veut dire que ces prix ronds, on peut pas les payer avec des pièces d'un ou deux centimes chez vous, c'est interdit ?
Alors, chez moi, non, c'est pas interdit. La plupart des clients me payent avec leur petite monnaie justement pour écouler leurs pièces de 1 et 2 centimes. Moi, je les récupère et après, je les remets en banque. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y aura plus de pièces de 1 et 2 centimes à circuler dans le village pour me régler. Ça va simplifier les porte-monnaies des gens. Voilà, donc moi je les récupère quand même.
Et bien voilà une initiative qui pourra sûrement inspirer d'autres commerçants. Merci Hugo, bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Bonne soirée bonne Hugo soirée. Et merci et bonne soirée à vous les amis.
Et merci et bonne soirée à vous aussi Julien.
On se retrouve quand demain
Faisons comme ça. Ouais.
Très bien.
Bon bah bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée Peggy.
Non mais vous restez là.
Bonne soirée à vous chers auditeurs.
L'émission continue et on retrouve les amis dans Défait le Monde demain 18h40 dans RTL Soir.